Bonjour à tous, chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue des multiples facettes de l'actualité. Une actualité pour le moins bien remplie cette semaine. Et au menu pour ce journal radiophonique amplifié du samedi 19 novembre, nous aurons une revue de presse, les billets de nos éditorialistes scientifiques et économiques, et puis enfin le journal de la culture. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres, amplifié pour vous par Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi. Commençons sans tarder par les informations nationales. De nombreux événements ces derniers jours, comme la fin de la grève à Itélé ou un nouveau témoignage dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Sans grande surprise, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature au présidentiel. De nombreuses pistes existent quant au choix de la date, notamment autour du fait qu'il manque encore de soutien. L'ancien ministre de l'économie a officiellement démissionné jeudi de la fonction publique après avoir lancé son mouvement En Marche le 6 avril 2016. La date choisie est bien sûr avant la déclaration de Hollande sur sa candidature ou non à son propre poste, mais c'est aussi quelques jours à peine avant la primaire de la droite et des centres qui la boycottent, de dimanche. Déjà beaucoup disent qu'il va peser dans la balance et voler des voix à certains, mais la question du « à qui » reste entièrement ouverte pour le moment. Ce week-end aura donc enfin lieu la primaire de la droite. Selon une enquête Fondapol, presque la moitié des électeurs avérés pour le scrutin de ce week-end est composée de personnes de plus de 65 ans et retraitées. Celle-ci considère toutefois que la mondialisation est une chance et que l'Europe est une source d'espoir, alors que moins de la moitié du total des électeurs pensent la même chose. On trouvera aussi ce week-end 10% venant de la gauche et 11% du FN. Un Français dans l'espace, ce n'est pas tous les jours. Dans la nuit du 17 au 18, Thomas Pesquet décollera à bord d'une Soyouz, fusée russe datant des années 60. Le Français va rejoindre l'ISS avec un Russe et une Américaine. Une fois la mise en orbite effectuée en environ 8 minutes, ils mettront 2 jours pour se raccrocher à l'ISS. N'oublions pas qu'il amènera avec lui dans la Station Spatiale Internationale une expérience conçue ici même à l'ENS de Lyon pour le nettoyage de l'ISS. François Hollande a annoncé la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au présidentiel. On trouve toutefois qu'un léger changement a été fait, il n'y aura plus de garde statique devant les lieux de culte, a promis Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Pour l'international maintenant, 2 semaines chargées, entre la bataille de Mossoul et un bras de fer institutionnel au sein de l'Union européenne sur la question du budget. Mais d'autres informations ont aussi retenu notre attention. En Ukraine, l'isolation de Tchernobyl commence après près de 4 ans de travaux. Voilà 30 ans que la catastrophe a eu lieu. La solution pour le siècle à venir est de glisser un sarcophage parfaitement isolant sur le réacteur numéro 4. C'est un des chantiers les plus difficiles de notre époque, car il s'agit de faire glisser sur plus de 300 mètres pas moins de 36 000 tonnes de matériaux. Les travaux ont commencé en 2012, mais touchent enfin à leur fin. Alexei Ulyukayev, ministre de l'économie russe, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi pour corruption par les services secrets russes. Il a été interrogé puis assigné à résidence. Il aurait cherché à extorquer 2 millions de dollars au groupe pétrolier Rosneft en échange de son feu vert pour le rachat d'une entreprise nationalisée à hauteur de 5 milliards de dollars. De nombreux doutes pèsent sur la validité de cette arrestation et sur les véritables raisons derrière, mais le FSB dit avoir agi avec des preuves solides. Cette semaine, Barack Obama était en visite en Grèce, pour la première fois de son mandat. Beaucoup estiment que cette visite n'avait pour but que de rassurer après l'élection de Trump qui est, selon Obama, difficile de faire plus différent que le prochain président américain et lui-même. Il en a profité pour marquer sa position contre l'austérité imposée à la Grèce en espérant changer le point de vue de Berlin sur la question. Pour finir très rapidement, avant les deux sujets de la semaine, la Commission européenne a rendu mercredi dernier son verdict sur les budgets européens dont certains menaçaient de n'être pas conformes. C'est le cas par exemple du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, mais aussi de la France. La Commission a fait preuve de souplesse sur ces questions pour différentes raisons, comme l'accueil des migrants, le soutien au gouvernement Renzi, les tremblements de terre en Italie, les cures d'austérité chez les Ibères et l'absence de gouvernement pendant une longue période en Espagne. Mais deux sujets ont été utilisés pour réduire les peines, le Brexit et l'élection de Trump, principaux fournisseurs d'instabilité au sein de l'Union européenne. Penchons-nous à présent sur deux sujets particulièrement chauds ces dernières semaines. Tout d'abord, sans surprise, l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Il prendra sa fonction en janvier prochain, mais doit dès à présent choisir son cabinet. Avant cela, quelques retournements pour le moins intéressants sont à considérer par rapport à cette victoire de Trump. Le milliardaire, qui a réussi son pari à coups de discours choc et de verve à l'oral, est revenu sur certains points de sa campagne. Obama n'a pas hésité à dire de lui que c'était un pragmatique, contrairement à l'image qui s'est formée autour de lui ces dernières semaines. En effet, après la rencontre à la Maison-Blanche entre Trump et Obama, le prochain président a annoncé vouloir réfléchir à la question de l'Obamacare pour n'en garder que le positif, sans dépenses futiles. Selon Trump, l'Obamacare serait soit amendé, soit abrogé, soit remplacé. Pourtant, le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, l'actuel président du Parti républicain Reince Priebus, a tenu des propos nettement plus fermes sur la question. En ce qui concerne les expulsions promises par le milliardaire, le chiffre a été largement baissé jusqu'à atteindre les statistiques du mandat d'Obama. En ce qui concerne les relations internationales, Trump a fait un pas en arrière sur ses déclarations concernant la réduction des dépenses de l'OTAN, ainsi que sur l'intérêt à doter le Japon et l'Arabie Saoudite de l'arme nucléaire. Pour l'accord sur le nucléaire iranien, le nouveau président est bloqué par le droit international et son conseiller pour les affaires étrangères a préféré préciser que le texte serait relu, modifié par endroit et la nouvelle proposition serait proposée au Sénat et aux Iraniens. Pas d'affolement sur ce point. Il semblerait donc que malgré des promesses de campagne toutes plus exagérées les unes que les autres, Trump soit devenu raisonnable, maintenant son siège au bureau ovale réservé. Comme l'a annoncé Scott Pelley, présentateur d'un JT américain sur CBS, tout ira bien pour une simple et unique raison. Les pères fondateurs ont conçu un système où le président est bloqué de toutes parts pour ne jamais tomber dans un régime centré autour d'un homme et de ses désirs possiblement fous. Passons maintenant à un sujet plus proche de nous encore, toujours dans le monde anglo-saxon. Le Brexit fait à nouveau débat depuis la parution d'une circulaire interne au gouvernement britannique. Il semblerait en effet qu'il n'y ait aucune stratégie avancée ni de plan commun décidé. Ce qui est sûr pourtant, c'est que la première ministre Theresa May tient à être au centre des négociations côté anglais. Elle avait promis d'invoquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne avant mars 2017, mais la récente déclaration de la Haute Cour de Londres a ralenti le processus. En effet, le Parlement devra donner son accord au Brexit et si les conservateurs ont la majorité dans la Chambre des communes, ce n'est pas le cas chez les Lords. Mais le gouvernement britannique a divulgué un projet de loi selon lui en béton armé qui fait actuellement 3 lignes. Cette note avait fait chuter quelque peu le cours de la livre mardi dernier. Il semblerait donc que le Brexit n'est pas encore une certitude si bien orchestrée que ça du côté de nos voisins britanniques. Alors qu'en est-il de l'Union européenne ? Les négociateurs ont déjà été sélectionnés, à savoir un Français spécialiste des négociations internationales, ainsi que le libéral Guy Verhofstadt, dont la candidature à la présidence de la Commission avait été rejetée plusieurs fois, notamment à cause de David Cameron, ancien Premier ministre du Royaume-Uni. L'Union européenne prépare depuis le sommet de Bratislava en septembre dernier son après-Brexit. Petit exemple d'idée en cours de mise en place, un système d'entrée payante dans l'espace Schengen à 5 € qu'il faudra avoir validé 72 heures avant son arrivée. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va donc être un processus long et pour le moins hasardeux, du moins pour les Britanniques. Cette affaire reste à suivre et je tiens à préciser que tant que les négociations n'auront pas abouti, nous sommes toujours dans une Europe à 28.
Merci beaucoup Pierre pour ce journal.